Va s'afficher, vous pouvez déjà ouvrir avec moi l'épître de Paul aux Colossiens, si vous le voulez bien. Vu la teneur du message, je préfère apporter le message avant que nous partagions ensemble la scène. Vous savez que notre thématique, Il restaure mon âme, nous entraîne depuis 2 semaines sur la question du pardon. Nous avons commencé à aborder la question du pardon il y a 2 semaines et nous avons, c'était le message ici, le pardon, oui, on en est tous conscients, on est tous d'accord, le pardon, oui, mais comment? Et j'ai vraiment eu à cœur de ne pas aborder le pardon sous une forme qui pourrait être légaliste, savoir il faut pardonner. Vous savez, les yaka faucons, même si on les sort de la parole de Dieu, les tu dois, ça ne nous aide pas. Et il peut y avoir, je me suis aperçu dans la vie des uns et des autres, ici et ailleurs, combien j'ai rencontré de frères et sœurs qui, malgré toute leur bonne volonté, avaient en eux de telles blessures qu'ils en arrivaient, c'est pas qu'ils n'avaient pas de bonne volonté, ils ont de la bonne volonté, mais il y a des telles blessures, il y a des situations qui peuvent être tellement tragiques et tellement douloureuses qu'on peut très vite se retrouver dans l'incapacité de pardonner et se retrouver avec cette question latente, implicite, le pardon, oui, mais comment on fait pour pardonner? Et il faut bien comprendre tout ce qui est à base de « il faut »,« tu dois »,« yaka », »,« faucon », tout ça c'est culpabilisant. Tout ça, c'est moralisateur et ça n'apporte rien du tout. C'est vrai que dans la parole de Dieu, le pardon est présenté sous forme d'impératif. On va le voir encore ce matin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Et sur ce chemin, parce que pour certains, le pardon parfois peut être instantané par la grâce de Dieu. Et puis pour d'autres, c'est réellement un chemin. Mais si nous sommes sincères, nous allons rencontrer, si nous avons cette volonté en nous-mêmes, nous allons rencontrer le secours divin, si nous sommes sincères. Le Seigneur va lui-même nous conduire et nous accompagner sur ce chemin libérateur. Parce qu'un jour, l'apôtre Pierre, c'est ce qu'on a vu, il est venu devant Jésus et il a dit « Seigneur, combien de fois est-ce que je vais pardonner à mon frère ?» Et alors qu'il pensait avoir compris la norme, alors qu'il pensait que c'était 7 fois, le Seigneur lui dit « Non Pierre, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, ça reste encore des gouttes. Tu passes encore ton temps à compter, tu fais les comptes, tu comptes les coups, tu comptes les injustices, tu comptes. Ah ouais, mais je lui ai dit 3 fois, ah mais ça fait déjà 2 fois que je te le dis, ah mais ça fait 3 fois qu'elle me fait de coups, ça fait 4 fois. Pierre, mon pardon c'est pas 3, 4, 5, 6, 7. Mon pardon c'est une source que tu ne peux même pas imaginer, que tu ne peux même pas quantifier. C'est pour ça que je te dis 70 fois, 7 fois, pour te montrer que c'est une source qui n'est pas quantifiable. Et Jésus, dans tous ses propos, dans son entretien avec Pierre sur le pardon, on voit que Jésus, dans tous ses propos, est volontairement hyperbolique, parce qu'il veut faire comprendre à Pierre quelle est la dimension de son pardon. Et puis, c'est pour ça qu'il amène la parabole du serviteur impitoyable. Parce que ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, ce qu'il veut amener en termes de révélation dans nos cœurs, pas d'information dans nos têtes, mais de révélation dans nos cœurs, il veut que nous nous souvenions quelle était la dette de nos péchés envers lui, l'immensité de notre dette, afin que nous réalisions l'immensité de la grâce qu'il a manifestée envers nous. Et étant bouleversé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, une grâce telle que le Seigneur la manifeste dans sa parole, dans cette plénitude, Jésus est la plénitude de la grâce, c'est pas possible qu'elle me laisse indifférent. Elle ne peut pas me laisser sans force, sans ressources, sans solution. Donc, ici, le Seigneur veut montrer à Pierre l'immensité de la grâce qui a été manifestée envers lui, envers toi, envers moi, de sorte que mon cœur, bouleversé, transformé, ne soit plus en train de se demander comment faire pour pardonner, mais que j'arrive naturellement à me dire, finalement, comment faire pour ne pas pardonner? Pour que ça devienne logique, que ça devienne une source qui coule. Et le Seigneur amène Pierre et veut nous amener à changer notre regard, à changer notre perspective, et c'est comme ça qu'il nous secourt. Et puis la semaine dernière, on a insisté sur la parabole du fils prodigue, et on a insisté sur cet aspect du pardon de Dieu, où on s'est aperçu que, Dans la parabole du serviteur impitoyable, il est question de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce que le roi miséricordieux a fait pour le serviteur. Mais comme le serviteur n'a pas compris ce que le roi a fait pour lui, il s'est trouvé dans l'incapacité de pardonner à son compagnon. Et puis, dans la parabole du fils prodigue, on a considéré pas seulement ce que le père a fait pour nous, mais ce que le père a fait de nous. Et la dimension de la restauration qu'il nous a accordée avec la justification, la robe blanche, les souliers, la bague, l'autorité, la dignité, etc. Tout est en ligne, vous pourrez le suivre plus tard si vous voulez, si vous n'avez pas eu ce message. Mais, et là, on s'est rendu compte que le fils aîné, comme le serviteur impitoyable, n'a pas réussi à pardonner à son frère. Il n'est pas rentré dans de meilleurs sentiments envers son frère. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris qui est son père. Et c'est seulement en découvrant son père, il va le découvrir, il va découvrir qui il est, en le voyant à l'œuvre dans la vie de son frère. Et c'est ce qui va éveiller en lui du mépris aussi envers son propre père, et qui va le tenir dans l'incapacité d'accueillir son frère et de lui pardonner, parce qu'il n'a pas compris qui est son père. Tragédie d'être si proche physiquement et pourtant si loin dans l'état d'esprit. Ce matin, on va aller un peu plus loin. Donc la semaine dernière, c'était ça notre thématique avec Luc chapitre 15, la parabole du fils prodigue, on a considéré comme le Père vous a pardonné. Et ce matin, je veux considérer avec vous ces textes de Paul qui dit comme Christ vous a pardonné, et apporter aussi quelques compléments. Donc, Colossiens chapitre 3, versets 11 à 13. Dit Paul, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, puisque Christ est tout et en tous, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin, plutôt un petit peu en avant, dans l'Épître aux Éphésiens, et prendre simplement, tout de suite, ce sera fait, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, on peut même prendre le verset à partir du verset 29. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Dans le premier texte que nous avons lu, dans le texte de Colossiens chapitre 3, ce serait intéressant de lire plus large, mais il y a déjà tellement à dire ici. Le contexte, c'est que l'apôtre Paul est en train d'attirer l'attention des Colossiens sur la vie nouvelle qu'ils ont reçue. Et pas seulement sur la vie nouvelle, mais aussi sur la responsabilité, les responsabilités qui sont inhérentes, qui vont avec cette vie. On sait qu'un grand privilège, c'est ce qu'on a vu autant avec la parabole du serviteur qu'avec la parabole du fils prodigue, un grand privilège implique toujours une grande responsabilité. Et on a vu que, c'est ce que Paul ici décrit, vous avez, en d'autres termes, il dit, bien-aimé, maintenant, vous avez une vie nouvelle en Christ, vous n'êtes pas n'importe qui, verset 12, vous n'êtes pas n'importe qui, vous portez le nom de chrétien, chrétien c'est Christien, Christien c'est Christ, vous portez le nom de Christ, Dieu vous a communiqué, Christ vous a communiqué son nom, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des ambassadeurs du royaume des cieux, vous êtes des chrétiens, c'est comme ça qu'est venu le mot chrétien. À la base, vous lisez dans Acte 14, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens, littéralement chrétiens, les petits Christ qui a donné plus tard chrétien. Pourquoi ? Parce que quand on a regardé ces disciples de Jésus dans les temps qui ont suivi après la Pentecôte, on a vu, on s'est dit, mais ces gens, ils aiment comme le Christ. Ils s'aiment les uns les autres comme le Christ les aime. Ils pardonnent comme le Christ. Ils ont comme le Christ. Ils font les œuvres. Ce sont des chrétiens qui a donné plus tard chrétiens. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et ici, l'apôtre Paul est clair. Ce qui est important, il n'y a ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, en d'autres termes, ce qui est important, ce que vous devez saisir, c'est que ce n'est pas l'arrière-plan culturel. Ce qui est important, ce n'est pas l'arrière-plan culturel. Il y a beaucoup d'églises dans lesquelles il y a des problèmes parce que la culture des uns et des autres, voire même nos cultures d'église, sont au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'histoire de culture, il n'y a pas d'arrière-plan social, pas d'arrière-plan religieux, mes habitudes et toute la mentalité qui en découle. Tout ça, c'est largement relégué au plan secondaire, tertiaire, quaternaire, ce que vous voulez. L'apôtre Paul dit maintenant, vous êtes des personnes nouvelles. Vous n'êtes pas les anciennes qui essayent de s'améliorer. Vous n'êtes pas une version 2.0 de vous-même. L'ancien moi, c'est fini. Vous êtes, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont en devenir nouveau. L'important, c'est Christ et tout et en tous. Et bien, rien que là, vous avez juste en l'espace de Christ et tout et en tous, en 6 mots, vous avez ce qu'il faut, excusez-moi, j'exagère pas, pour que l'Église, ce soit le paradis sur la terre. Christ et tout et en tous. Voilà le but, voilà l'objectif. Christ n'est pas un peu chez certains, plus ou moins chez les autres, non. Christ est tout et en tous. Ça, c'est l'objectif. C'est ce que Dieu veut. Et il vous a donné son esprit, vous avez son esprit en vous et sa parole pour avancer. Maintenant, ça, c'était sa part d'impossible, de nous sauver, de nous faire naître de nouveau. Mais l'apôtre Paul insiste sur la responsabilité. Comme le roi avait insisté sur la responsabilité du serviteur, comme le père insistait sur la responsabilité de l'aîné et du prodigue, nous avons notre part. Et Paul insiste, vous avez maintenant, vous, dans votre vie nouvelle, vous avez votre part de responsabilité. Votre part, c'est de renoncer. Vous apprenez, dans renoncer, il y a non. Vous apprenez à dire non. Vous apprenez à dire non au principe de l'ancienne vie, non à la mentalité de ce monde, vous apprenez à dire non aux mauvaises paroles, non à l'orgueil, non aux paroles déplacées, etc., etc. Vous renoncez, vous enlevez ce qui va faire obstacle à la bénédiction, à la croissance de votre Église, et puis vous allez chercher et développer. Il commence Colossiens chapitre 3 verset 1 en disant puisque vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, cherchez les choses d'en haut, etc., etc. Enlevez ce qui fait obstacle, renoncez et cherchez à développer les principes de la vie nouvelle, de la vie chrétienne, de la vie de Christ en moi. Et parmi ces principes, il en énumère quelques-uns, ben il y a la douceur, il y a la patience, il y a l'humilité. L'humilité de Christ, son humilité, humilité, humus, qui a donné humilité, humus, le sol, c'est-à-dire l'abaissement de Christ, qui va vous, une fois que vous aurez la douceur, l'humilité et la patience, vous allez pouvoir vous abaisser au niveau de ceux qui sont les plus faibles et pouvoir les porter. Vous savez pourquoi ça ne marche pas dans certaines églises? Pourquoi ça ne marche pas entre certains pasteurs et certaines églises? Pourquoi ça ne marche pas dans certains couples entre l'homme et la femme? Pourquoi ça ne marche pas parfois entre certains frères et sœurs? Pourquoi? Parce qu'on prend les gens de là où on est. Et de là où on est, on veut les tirer. Mais vous savez qu'à force de tirer sur une corde, elle casse. Et le Seigneur, lui, ne nous a pas tirés au ciel. Le Seigneur, il s'est humilié, il s'est abaissé. Il est venu de la position la plus élevée à la position la plus basse, par amour pour nos âmes. Et il s'est, humus, abaissé au niveau du sol. Et à partir de ce moment-là, il nous a pris là où nous étions, comme nous étions, et il nous a supportés. Supporter, ce n'est pas... Bon, il faut bien la supporter, elle est gentille, mais bon, ben lui, ça fait 10 ans qu'on lui dit, mais on va bien le supporter, de toute façon, il est dans l'église. Non, 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 supporter, ce n'est pas je fais un effort. Supporter, c'est porter par le dessous, sous-porter, porter par le dessous. Et Christ s'est abaissé, il est descendu et il nous a portés par le dessous pour nous élever avec lui dans la gloire, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah, ça valait bien un petit amen quand même, hein, on est d'accord. Et quand l'apôtre Paul dit « supportez-vous les uns les autres », il n'est pas en train de dire hey, « faites un effort quand même, c'est ton frère, c'est ta sœur ». Non, non, il est en train de montrer un schéma dans lequel les uns et les autres descendent, s'abaissent, et on va se porter les uns les autres. C'est ça la pensée de Paul, c'est ça l'image. Et vous allez vous soutenir, vous allez vous sous-porter dans la douceur, l'humilité, la patience, dans la charité, dans l'amour. Ça, c'est sur le papier. Sur le papier, c'est toujours magnifique, c'est toujours parfait. Maintenant, l'apôtre Paul a tout à fait conscience que l'Église, elle est faite de membres qui sont imparfaits. Parce que nous avons tous été rachetés par Christ, mais nous avons tous, les uns et les autres, un cheminement. Nous sommes tous en croissance, nous sommes tous en reconstruction. L'Esprit Saint et la parole sont en train, dans ma vie comme dans la vôtre, comme dans celle de vos frères et sœurs, de recréer, de remodeler, je prends l'image de soit du potier avec l'argile, soit du divin sculpteur avec le marteau de la parole, et qui est en train en réalité de reconstruire l'image de Jésus en chacun de nous, image qui a été perdue, plutôt abandonné par la désobéissance en Éden. Et puisque nous sommes en formation, puisque nous sommes en chemin vers la ressemblance de Christ, en train d'être reconstruits, on se doute bien que dans cet apprentissage, il va y avoir des sérieux loupés. Et c'est pour ça que Paul dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça ne vous fait pas rire. Moi, j'aurais même dit à la place de Paul, si l'un a de sérieux sujets de se plaindre de l'autre, parce que des fois, on a des sérieux sujets. Parfois, on a des légitimes sujets de se plaindre de l'autre. Mais bien sûr, et Paul en est conscient, parce que bien aimés tous, ici, ailleurs, tous, on a déjà été déçus. Tous, on a déçu. Tous, on aurait pu faire mieux. Tous, on aurait pu faire plus, et puis avant de parler de faire, tous, on aurait pu être plus à l'image de Jésus. Tous, on aurait pu plus, évidemment. Alors les différents, les sérieuses, les déceptions, et parfois les sérieuses déceptions, sont inévitables dans une église, frères et sœurs. Les désaccords sont inévitables. Les opinions diverses et variées sont inévitables. Les déceptions sont inévitables. Et on pourrait montrer comme ça qu'il y a beaucoup de choses dans une église, c'est logique, sont inévitables. Par contre, il y a quelque chose qui est évitable, largement évitable, c'est le conflit. Les déceptions sont inévitables, mais les conflits sont largement évitables. Parce qu'en réalité, je n'ai pas oublié que je suis en train de prêcher sur le pardon, on y arrive, hein, c'est la pensée logique de Paul. Parce qu'en réalité, bien-aimés, dans nos vies, dans nos relations, dans les églises, dans nos couples, dans nos familles, etc., etc., le vrai problème, c'est jamais le problème en lui-même. C'est pas l'objet du désaccord. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est comment on va le gérer. Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'on va gérer le désaccord, la déception, la blessure, mettez le mot que vous voulez. Est-ce qu'on va le gérer par l'esprit ou est-ce qu'on va le gérer par la chair? Est-ce qu'on va le gérer par la parole ou est-ce qu'on va le gérer par « moi je suis grec, moi je suis juif, moi je suis barbare, moi je suis scythe, moi je suis circoncis, moi je suis incirconcis. Oui, mais moi, mon pasteur machin, il me disait toujours que « oui, mais moi, j'ai été éduqué comme ça, c'est mon caractère, qu'est-ce que vous voulez, il faut faire avec. » Oui, mais est-ce qu'on va gérer par l'esprit ou est-ce qu'on va gérer par la chair? Est-ce qu'on va gérer par le Christ et tout et en tous ou est-ce qu'on va gérer avec un petit Christ et un grand moi? Est-ce qu'on gère avec la douceur et l'humilité ou est-ce qu'on va gérer finalement avec l'esprit de ce monde, avec notre ego? Est-ce qu'on gère avec l'esprit de Christ, c'est-à-dire l'esprit du pardon, parce que l'évangile, c'est l'évangile du pardon? Est-ce que je gère avec l'esprit de pardon ou est-ce que je vais gérer avec mes propres sentiments? Et là, une fois qu'il a amené toute cette logique, c'est là que l'apôtre Paul se permet aussi comme Jésus. Il se permet d'en faire un impératif et c'est très clair. Paul, avant de donner un impératif, comme le roi miséricordieux avait donné un impératif au serviteur impitoyable, lui avait dit « Ne devais-tu pas avoir compassion de ton frère comme j'ai eu compassion de toi ?» Avant ça, il lui a montré le privilège qu'il avait. Et là, en réalité, c'est la même chose. L'apôtre Paul trace tout un cheminement pour arriver ensuite, je ne sais plus où j'en suis dans le PowerPoint, en même temps je ne l'ai pas démarré, ça c'est bon, vous avez compris, pour arriver ensuite à cet impératif, de même que Christ vous a pardonné. La version Sommer est intéressante parce qu'elle dit « pardonnez-vous de la même manière ». Pardonnez-vous de la même manière. Je pense, on va regarder encore après, mais je crois savoir que le Seigneur, quand il me pardonne, il n'a pas mis la poussière sous le tapis. Il n'a pas mis le dossier dans un tiroir pour un jour peut-être me le ressortir. Avec le Seigneur, les dettes sont effacées. Les dossiers sont détruits. C'est comme ça que nous avons été pardonnés. Pardonnez-vous de la même manière. La version Parole de vie, j'aime beaucoup aussi cette version, qui dit « Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui ». La version Parole vivante aussi est très intéressante. Elle donne le texte, elle retranscrit le texte original en ces termes. Soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement, c'est le principe de la grâce et de la grâce surabondante. Vous vous souvenez, le roi miséricordieux, le serviteur lui dit « Laisse-moi du temps, je te paierai tout ». Le roi miséricordieux dit « Non, tu ne me paieras jamais rien, tu n'y arriveras pas ». Ému de compassion, il lui remit la dette et le laissa aller. Grâce surabondante. Le fils prodigue revient vers le père et il espère faire ses preuves et être traité comme un mercenaire pour gagner les échelons dans la maison de son père. Mais quand son père le voit, il l'empêche de parler d'être mercenaire ou serviteur. Il le restaure. Totalement, il le reprend comme son fils à 100% et immédiatement il le rétablit dans sa dignité et dans tous ses privilèges de fils. Principe de la grâce surabondante. Et l'apôtre Paul dit « Pardonnez-vous aussi généreusement que le Christ vous a pardonné, pardonné charizomai dans l'original, qui signifie bien c'est une faveur, une grâce, faire grâce, remettre une dette. » C'est vraiment cette pensée. Ici, l'apôtre Paul a exactement la même approche que Jésus en Matthieu 18, quand il est question du roi miséricordieux et du serviteur impitoyable. Il s'agit réellement de se pardonner au sens d'imiter l'exemple de Jésus. Paul se base sur l'exemple divin. Le roi, ému de compassion, le laissa aller. Il lui remit la dette. Dans l'Épître aux Colossiens, je vous l'ai mis ici, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher, Colossiens 2, 14, qui nous montre encore, toujours dans la même pensée, ce que Jésus a fait et comment il l'a fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé, il y avait un acte. Il y a une dette, il y a une facture. À cause du péché, nous avons une créance envers Dieu. Et cet acte d'ordonnance, cette créance, cette dette, cette facture qui est gravée depuis l'Éden, cet acte a été effacé. Et comment le Seigneur l'a effacé ? En le clouant sur la croix, il a effacé et il a détruit. Lorsque les apôtres, ensuite, dès le livre, tout de suite après la Pentecôte, quand ils commencent à prêcher la repentance et la conversion à Christ, ils disent « Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Voilà comment le Seigneur, lui, a agi envers nous. Il a effacé. Ces textes sont aussi l'accomplissement de promesses qui étaient déjà contenues dans l'Ancien Testament. On le sait, dans l'Ancien Testament, je vous l'avais dit, les péchés n'étaient pas effacés. Les péchés étaient juste couverts. Et le sang animal rappelait à Dieu sa propre promesse qu'un jour viendrait le substitut parfait en Jésus, le sacrifice ultime qui lui allait, comme a dit Jean-Baptiste, ôter le péché du monde. Mais en l'attente du sacrifice de Jésus, nous on se confie dans un sacrifice passé. Mais dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, il se confiait dans un sacrifice à venir. Les péchés étaient simplement couverts, c'était aussi un acte de foi, en l'attente que le sacrifice parfait ait lieu en Jésus, souverain sacrificateur parfait, sacrifice agneau parfait, et qu'à ce moment-là, les péchés de l'Ancien Testament soient aussi effacés. Mais en attendant, ils étaient simplement couverts. Mais par contre, la promesse qu'un jour les péchés seraient effacés avait été faite. Vous pourrez regarder, je ne vous fais pas chercher, Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Ésaïe dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Blancs comme la neige, blancs comme la laine. » C'est-à-dire que la tache, cette tache qui est naturellement, pourquoi du pourpre, pourquoi du cramoisi ? Parce que ce sont des couleurs qui marquent et qui sont naturellement indélébiles, qui ne peuvent pas partir. Une tache naturellement indélébile, mais qui, elle, est totalement effacée par la puissance du sang de Jésus. Et Ésaïe avait prophétisé que nos péchés seraient totalement effacés, que la dette serait aussi totalement payée. Évidemment, Ésaïe 53, pour faire le complément, mais vous le connaissez déjà. Merci Seigneur. Son exemple me touche, son exemple m'inspire. Le Seigneur n'a pas mis, me concernant, il n'a pas mis la poussière sous le tapis. Il n'a pas mis le dossier dans le tiroir. Le Seigneur a enlevé, il a effacé, il a détruit, il a anéanti. C'est la puissance du pardon divin qui efface. Mon frère, ma sœur, tout ce que tu as confessé et abandonné est totalement effacé. Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le vis ? Est-ce que tu en es conscient ? Totalement effacé, complètement pardonné, il ne subsiste plus rien. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Lorsque le prodigue, je vous l'ai dit la semaine dernière, vient avec cette démarche, il est rentré en lui-même, il a réfléchi, il a eu une prise de conscience, dit le texte, il est rentré en lui-même. Et avec cette conviction, il fait une démarche, il vient à son père. Quand le père le voit, le pardon est total à 100% et la restauration est totale et immédiate. Le Seigneur, le Père, ne l'a pas pardonné à 50% sur l'instant et 50% plus tard sous condition. Il a été justifié, rétabli dans son autorité, dans sa dignité de fils, immédiatement. Pourquoi ? Parce que Jésus a effacé ma dette, parce qu'il a payé ma dette, parce qu'il a cloué cet acte sur la croix. Et quand le Seigneur me dit « Repends-toi, viens, confesse », en réalité, qu'est-ce que je fais ? Je viens simplement avec humilité, avec foi, avec reconnaissance, je viens simplement chercher le pardon que le Seigneur m'a acquis à la croix. Le Seigneur a offert, Jésus a offert au Père son propre sang. Il a parfaitement accompli la loi. Il a assouvi parfaitement la colère de Dieu. Christ, les bras ouverts sur la croix, est là comme paratonnerre, la foudre divine, la sainte, la juste, légitime, justifiée, colère de Dieu sur le péché, s'abat et en son Fils Jésus qui a été, il n'a pas porté nos péchés, Jésus a été fait péché pour nous. La colère de Dieu s'abat sur lui. Et à ce moment-là, il assouvit parfaitement la colère de Dieu. Dieu n'est plus en colère parce que Jésus a pris la totalité de la colère, il a payé la totalité de la dette. Et il a tout pris sur lui. Amen. Mais ensuite, il se retourne vers moi et il me dit, si tu veux que ce pardon que je t'ai acquis, mais pour l'instant ce pardon qui reste bloqué à la croix, si tu veux que ce pardon il devienne actif dans ta vie, il faut que tu viennes. Le Père a fait son œuvre, Jésus a fait son œuvre, mais moi j'ai aussi ma part à faire, savoir de m'approcher et de venir chercher à la croix dans l'humilité, dans la repentance, dans la foi, dans une confession sincère. Je viens simplement chercher le pardon que Jésus m'avait déjà acquis à la croix il y a 2000 ans. Je viens simplement chercher ce pardon et le rendre actif dans ma vie. Mon frère, ma sœur, tout ce que tu as confessé et abandonné a été totalement effacé. Mon cher ami, ce matin, Jésus est mort sur la croix pour toi. Il t'a acquis le pardon. Mais si on comprend à la lumière des Écritures l'universalité de la grâce pour tous, il n'y a pas de pardon pour tous. Le pardon n'est pas automatique pour tous. Jésus l'a acquis. Et le pardon va devenir effectif, agissant dans la vie de ceux qui viendront le chercher à la croix, dans la repentance et dans la foi. Mon ami, si ce matin tu n'es pas venu à la croix, dans la repentance et dans la foi, le pardon, Jésus te l'a acquis, certes, mais il est bloqué à la croix et tu es encore dans le péché et tu es encore dans ta condamnation. Par contre, si tu viens le chercher simplement avec humilité, avec foi, avec sincérité, avec droiture de cœur et dans la repentance et la foi, simplement, ce pardon sera acquis, il va commencer à être actif dans ta vie et tout sera effacé. Amen. Quel merveilleux message de l'Évangile. Voilà, il est simple et c'est comme ça que le Seigneur veut que je reproduise son pardon. Je termine avec ça. Je veux vraiment insister sur ce point, frères et sœurs, parce que cette réalité du pardon de Dieu, du Père, le pardon de Jésus en nous, on doit vraiment la saisir avec le cœur, ça doit vraiment être une révélation. Parce que c'est ce qui va permettre à des bien-aimés, ici et tellement ailleurs aussi, de se dégager, malgré les années de vie chrétienne, de se dégager du poids de la culpabilité, de se dégager du poids d'accusations diaboliques, de se dégager de pensées d'accusation, une conscience. Il y a tellement de frères et sœurs, j'insiste sur ce point, qui savent dans leur tête que Dieu les a pardonnés, mais qui se considèrent encore comme les vilains petits canards de la maison, qui vivent encore une forme d'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. Une forme de honte sur leur vie. Et leur conscience n'est pas soulagée. Ils ne trouvent pas de véritable liberté en Christ. Il n'y a pas vraiment de joie réelle dans la louange, dans la prière, dans la marche. Il n'y a pas d'assurance. On est encore incertain. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas reçu la révélation de la façon dont le Père nous a pardonné et restauré et la façon dont Christ nous a pardonné quand il a effacé et cloué notre acte de condamnation sur la croix. Le pardon de Dieu, écoutez-moi bien, l'œuvre de Jésus à la croix, son sang, l'œuvre de Jésus à la croix est tellement puissante, dit l'Épître aux Hébreux, qu'il va même aller jusqu'au très fond de mon âme et purifier ma conscience. Ce que le sang animal dans la première alliance ne pouvait pas faire. Mais dans la seconde alliance, Jésus, souverain sacrificateur, parfait et substitut, agneau immolé, parfait, fait une telle œuvre que si je la reçois par la foi, l'Épître aux Hébreux dit, le sang de Christ purifiera même votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Une conscience qui est soulagée. Je n'ai plus aucun poids sur moi. Ma conscience est soulagée. Ma conscience est parfaitement pure. Et par contre, j'ai vraiment aussi une confiance réelle et sincère. Je ne suis pas sûr de moi. Jamais je suis sûr de lui. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait ou pas fait. je suis sûr de ce que lui, il a fait. Ce qu'il a fait suffit au Père. Ce qu'il a fait doit donc te suffire et tu dois l'accepter simplement par la foi et vivre une vie de liberté. Et puis c'est là qu'on va se dire, oui, mais je m'en souviens. Je me souviens de ce que j'ai fait. Je me souviens de qui j'ai été. Je me souviens de ce que j'ai fait, même parfois dans ma marche chrétienne, des choses, je ne voudrais pas que ce soit affiché au tableau. J'ai honte, je sais ce que j'ai fait. Et oui, Christ m'a pardonné, mais je m'en souviens. Et cette mémoire, en réalité, quelqu'un va me dire, oui, mais cette mémoire, elle me fait souffrir, cette mémoire, elle m'accable. Et... Frères et sœurs, c'est ce que Jésus a fait pour nous dans nos offenses et c'est ce que nous faisons les uns pour les autres dans nos offenses respectives. Le Seigneur a effacé nos péchés, il n'a pas effacé la mémoire. Il faut que la mémoire reste. Dieu a créé la mémoire et il refuse de l'effacer parce que tu n'es pas un vulgaire disque dur qu'on va formater ou qu'on va rebooter. Il faut que la mémoire reste, la mémoire de ce que tu as été, la mémoire de ce que tu as fait. Et de toute façon, je fais une grande parenthèse, même dans le ciel, on se souviendra de qui on a été. On se souviendra qu'on a été racheté. Quand les rachetés dans le ciel disent, chantent ce cantique nouveau dans l'Apocalypse, tu as racheté des hommes et par ton sang, des peuples. Pourquoi racheter? Parce qu'on sait très bien d'où on vient. Et pourquoi on va jeter nos couronnes à ses pieds? On lui rendra la gloire. Parce que nous aurons aussi dans le ciel, nous saurons très bien d'où nous venons. Et pourquoi nous sommes là? Parce que le Seigneur nous a tellement aimés et rachetés. Et puis nous aurons aussi sous nos yeux, pour l'éternité, nous verrons ce que Thomas a vu le soir, le 8 jours après la résurrection, quand le Seigneur lui a dit, tiens, regarde, avec son corps ressuscité, Jésus dit à Thomas, regarde les marques dans mes mains, regarde les pieds percés, regarde mon côté percé, viens, mets ton doigt, regarde. Et dans son corps ressuscité avec lequel il va monter au ciel quelques jours plus tard, le Seigneur en réalité porte les stigmates dans son corps nouveau, incorruptible, de son œuvre. Et le Seigneur monte avec son corps de gloire dans le ciel. Et aujourd'hui, frères et sœurs, dans le ciel, il y a un homme. Il y a un homme dans le ciel. Jésus a un corps glorifié, incorruptible. Et ce corps, il porte pour l'éternité les stigmates de mon péché et sous mes yeux pour l'éternité, l'éternité, l'éternité. Nous aurons ce rappel permanent de qui nous avons été et de comment il nous a aimés et de comment il est venu nous chercher. Alors la mémoire bien-aimée, même dans le ciel, elle ne passera pas. Il faut que tu te souviennes de qui tu as été et de ce que tu as fait. Il faut que tu te souviennes de quel genre d'homme tu étais. Il faut que tu te souviennes de la femme de mauvaise vie que tu étais. Non pas pour t'accabler, mais parce que ça va te servir de test. Et en réalité, si, lorsque tu te souviens des pires choses que tu as faites, ta conscience n'est pas libre. Tu as encore un sentiment de honte, de culpabilité. Peut-être tu as des doutes, tu as du remords, parce que tu es encore chargé. C'est que tu n'as pas encore saisi toute la dimension du pardon de Dieu pour toi. Et tu as encore des étapes de restauration à vivre. Et ça va aussi avec ce que l'on t'a fait. Tu te souviens de ce que tu as fait, de ce que tu as été, mais tu te souviendras aussi sans cesse des pires choses que l'on t'a fait. Et comme Joseph, tu pourras dire, Seigneur, tu m'as fait oublier, mais pas oublier par rapport à la mémoire, souvenez-vous de Joseph. Tu m'as fait oublier par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance, par rapport à la peine. Seigneur, tu m'as fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon Père. Si tu te souviens, si lorsque tu te souviens du mal que tu as fait, ta conscience est libre. Purifié. Je veux vraiment insister sur ce point. Alors c'est que tu as saisi la révélation du pardon de Dieu et tu l'as saisi dans toute sa dimension. Si lorsque tu te souviens du mal que l'on t'a fait, ça n'évoque plus en toi de rancœur, de douleur, de larmes, de tristesse, de colère, de ressentiment, d'amertume et tout ce que vous voulez. Si ça n'évoque plus ces choses-là, c'est que tu as vraiment saisi le pardon et que tu as été capable de le retranscrire à ton tour. Alors je comprends que l'apôtre Paul dise « Vous avez Christ en vous. Christ veut et peut être tout et en tous. Mais nous sommes tous en chemin, tous imparfaits, tous en reconstruction. Alors, si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, et je dirais même, si quelqu'un a de sérieux sujets de se plaindre de l'autre, Paul, dans la même logique que Jésus, en imitant son exemple, va nous dire, « Pardonnez-vous aussi généreusement que Christ vous a pardonné. Lui, il a effacé la dette de nos péchés, il a détruit notre acte de condamnation. » Et ça, c'est la révélation du pardon qui va transformer ton cœur, ton regard sur Dieu, ton regard sur toi-même, parce que tu vas réussir à te pardonner. Ton regard sur les autres qui va t'amener à pardonner naturellement. Et c'est comme ça, frères et sœurs, que le pardon devient une source naturelle pour la gloire de Dieu, dont je suis le bénéficiaire et ensuite dont je fais bénéficier mes frères et sœurs. Amen. On se recueille ensemble.